Depuis des générations, c'est une des enseignes préférées des consommateurs. Une marque qui équipe nos cuisines, nos salons, nos chambres d'enfants, puis celles de nos enfants. IKEA cultive une image vertueuse, respectueuse de la planète. Mais que se passe-t-il derrière les pages rassurantes de son catalogue ? Ses meubles en kit dépendent d'une ressource renouvelable mais fragile. Le bois. Le géant suédois dévore 20 millions de mètres cubes de bois chaque année. Un arbre toutes les 2 secondes.
Avez-vous un meuble acheté chez IKEA chez vous ? Vous n'aurez peut-être plus la même vision de ce premier producteur mondial de meubles qui consomme 20 millions de mètres cubes de bois chaque année, un arbre coupé et tranché toutes les 2 secondes en Europe et partout dans le monde afin de renouveler sa gamme et finir chez vous. La multinationale suédoise achète des milliers d'hectares de terre, pratique des coupes rases dans des forêts anciennes et met des écosystèmes en danger en replantant des arbres en monoculture pour satisfaire nos besoins en ameublement et autres produits qui se retrouvent dans nos appartements et nos maisons. Ce documentaire intitulé « IKEA, le seigneur des forêts » de Marianne Kerfrieden et Xavier Deleu a été proposé dans la sélection officielle des films de plus de 40 minutes dans le cadre du FIGRA, Festival international du grand reportage et du documentaire de société, qui a lieu du 28 mai au 2 juin à Douai. Pour en savoir plus sur les dessous de cette multinationale suédoise, entretien avec Marianne Kerfrieden, co-réalisatrice de ce documentaire « Boisé ». Ou pas, interview réalisée en compagnie de Laura pour Radio PFM. Marianne Kerfrieden, bonjour. Vous êtes réalisatrice donc de ce fameux IKEA, le seigneur des forêts avec Xavier Deleu. Alors comment j'ai vu le titre, le seigneur, on aurait pu même l'écrire S-A-I-N.
Eh bien, figurez-vous que c'est le titre du 52 minutes, parce que pour le marché international, on a fait une version 52 minutes et on fait tomber le E qui se transforme en A.
Tout le long du film, moi j'ai eu cette impression, et je pense que ça se confirme, que les arbres, c'est comme du bétail en fait, surtout venant de chez IKEA, mais pas que peut-être, mais on les élève, on les abat et on les consomme.
Oui, effectivement, c'est plus des forêts en fait, c'est vraiment des plantations et c'est tout le temps comparé à des plantations par les militants des ONG qu'on rencontre. On plante des arbres comme on plante du maïs, quoi, et ça devient des champs d'arbres. Certains vont même jusqu'à dire que ce sont des déserts verts.
Pour rebondir sur ta première question au sujet des arbres, on parle de plantation d'arbres, donc c'est des monocultures de pins précisément. Moi je me demandais si ça avait un impact, et je pense que la réponse est oui, sur d'autres espèces, que ce soit animales, les insectes, les champignons.
Il est clair que la monoculture, c'est une catastrophe pour la biodiversité. En particulier les pins par exemple, aussi la monoculture ça va jouer sur l'eau, donc les ressources en eau. Donc effectivement il y a moins d'insectes dans les monocultures, il y a moins d'espèces animales. Et puis il est également prouvé que les monocultures sont moins résilientes, donc moins résistantes aux attaques par exemple d'insectes. Et avec le réchauffement climatique on est de plus en plus confronté aux attaques d'insectes et moins résilientes aussi aux incendies. Donc en fait on a vraiment tout intérêt à avoir des forêts avec des espèces vraiment plus variées.
Ce qui court aussi tout le long du film, c'est ce qui est une grosse problématique, c'est justement cette plantation de bois en monoculture. Ça détruit évidemment, puisque ils les enlèvent, forcément les forêts primaires qui sont là à l'origine. Et on se demande, et moi il y a une question qui me taraude, c'est comment on peut, IKEA, même si elle est toute puissante, acheter des forêts partout dans le monde, acheter une forêt dans un pays étranger. J'arrive pas à savoir comment ça se passe.
Vous savez qu'y compris en France, la majorité de la forêt est privée. Donc en France, on a une partie de la forêt qui est publique, mais ce n'est pas la majorité. Et c'est le cas aussi dans les autres pays, en fait. C'est des terrains privés, donc si une multinationale veut les racheter, elle peut le faire. Alors là, en l'occurrence, en Nouvelle-Zélande, ils avaient quand même certaines choses à respecter sur le papier pour être autorisés. Mais bon, voilà, ça a été accepté en Nouvelle-Zélande. Par contre, c'est vrai qu'en Lituanie, on en touche un mot, ça a quand même inquiété les citoyens, le fait que les forêts étaient pas bradées mais vendues à des multinationales étrangères. Et donc là, par contre, suite à une mobilisation citoyenne, ils ont quand même limité l'achat de terres par les multinationales.
Alors, le greenwashing, évidemment, d'IKEA. Hein, on a peur, d'ailleurs, parce qu'on a tous des meubles en bois chez soi. Alors, moi, personnellement, j'ai pas d'IKEA. Je suis jamais allé. Donc, ça va. Je suis un peu rassuré. Mais par contre, si je vais dans un autre magasin pour acheter des meubles, parce qu'à un moment donné, le bois, c'est quand on nous dit le plastique, c'est pas bien, le bois, c'est mieux. Eh ben, comment on fait, alors, dans ces cas, pour revoir la traçabilité du bois, c'est compliqué.
Alors, il faut peut-être que je dise quelque chose. C'est vrai qu'IKEA, c'est le plus gros consommateur de bois dans le secteur de l'ameublement. Mais le bois, on le consomme d'abord pour l'énergie. Hein. La première utilisation du bois, c'est l'énergie. Et la deuxième utilisation, c'est la construction, mais aussi, évidemment, le carton, le papier. Donc, pour faire les journaux, il faut du bois, etc. Donc, c'est sûr que le bois, on en a besoin. Alors après, toute la question est dans quelle proportion. Est-ce qu'on peut mieux réguler ce qui est sûr, c'est que le modèle d'IKEA de face sur nature, ça pousse à la consommation et donc ça pousse à couper toujours plus d'arbres. Hein. IKEA, c'est quand même un arbre toutes les deux secondes. Après, il y a certains chercheurs, mais ils ne sont pas tous d'accord. En fait, il y a une sorte de camp. Il y a ceux qui disent qu'il faut toujours qu'on ait de la forêt mixte, donc la forêt économique, avec une fonction économique, une fonction récréative et une fonction pour la biodiversité. Et il y a d'autres chercheurs qui disent non, il faut séparer les forêts. Il faut faire une forêt où ce soit que pour la production de bois, une forêt où ce soit que pour la balade, pour la détente, pour se ressourcer, et puis une forêt juste pour la biodiversité à laquelle on ne touche pas du tout. Et ça, c'est un débat qui n'est pas complètement tranché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on protège mieux nos forêts. En Europe, il ne nous reste plus que 2 ou 3% de forêts primaires. Il y a beaucoup d'ONG, notamment en Roumanie, hein, même en Pologne, qui disent qu'on devrait davantage protéger nos forêts, donc élargir les zones où vraiment on ne peut pas couper. Donc je pense qu'effectivement, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais malheureusement, ça n'en prend pas le chemin, même s'il y a eu des législations récemment qui protègent mieux les forêts. Voilà, on attend les élections européennes et en fonction de qui va passer... Il y a un risque de détricotage peut-être des dernières réglementations qui protègent mieux les forêts, donc il faut rester vigilant.
En parlant de réglementation, il y a aussi, ça m'a interpellé, ce fameux label FSC. On se rend compte que derrière, il y a un gros conflit d'intérêts qui ne garantit pas du coup que le bois soit prélevé de manière correcte et qu'il n'y ait pas d'impact sur la planète finalement.
Alors le FSC au départ, il a vraiment été créé en partenariat entre les multinationales. C'est le fruit d'un partenariat entre les multinationales et les ONG. Mais là, clairement, toutes les ONG qu'il avait créées au départ, donc les Amis de la Terre, Greenpeace, sont parties. Parce qu'ils ont clairement estimé qu'aujourd'hui, le label était aux mains des multinationales et était devenu un instrument de greenwashing. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est que le FSC, ils ont lancé un label qui s'appelle FSC Mixte, où en fait, on peut avoir du bois effectivement certifié FSC avec des standards, bon, ils sont ce qu'ils sont, mais voilà, ils existent, et du bois non certifié, quoi. Et effectivement, nous, on a pu prouver qu'en Roumanie, dans les Carpates, c'est une forêt qui n'est pas certifiée FSC, donc logiquement, IKEA dit « c'est pas certifié FSC, moi je coupe pas ». Sauf qu'en fait, on a découvert que des sous-traitants coupaient, et après, comme le bois est mélangé à du bois certifié FSC, ça fait le label FSC mixte et ça passe. Donc on voit bien qu'à chaque fois, ils créent les moyens d'aller exploiter de plus en plus de bois. Et comme me le faisait remarquer quelqu'un l'autre jour quand j'ai fait une intervention, il y a aussi le label, il s'adapte aux normes nationales. Et en fait, nous, ce qu'on montre dans le documentaire, c'est que la Roumanie et la Pologne, OK, ils respectent la réglementation roumaine et polonaise, sauf que la réglementation roumaine et polonaise, elle ne respecte pas la réglementation européenne. Donc c'est quoi les bons standards? A priori, c'est plutôt les standards européens. Et à ce moment-là, il ne faudrait plus couper dans ces pays-là parce qu'ils ne respectent pas la loi européenne.
Alors, on parlait de la Roumanie, puis il y a ce fameux qui fait partie d'une ONG, hein, qui est un protecteur de la forêt, là, qui a eu au péril de sa vie, hein, quand même. Il y a tous ces sous-traitances avec cette main-d'œuvre polonaise, roumaine et dans tous les pays. Il y a une phrase qui résume assez bien le film, c'est « On ne tape pas sur la main qui nous nourrit ». Donc ça, c'est compliqué, en fait. Hein. La toute-puissance d'IKEA, elle réside aussi là-dessus.
Oui, IKEA fait travailler énormément de monde en Pologne. Il y a 30% de son bois qui vient de Pologne. Et puis après, effectivement, c'est des milliers de sous-traitants. J'ai plus les chiffres en tête, mais ça représente effectivement des dizaines de milliers d'emplois. Donc c'est sûr que c'est compliqué de ne plus travailler avec IKEA. Et puis, enfin, je veux dire, IKEA, c'est des centaines de magasins partout dans le monde. Donc il y a effectivement cet aspect économique, et puis l'autre aspect que je voudrais souligner, c'est l'incroyable popularité de cette marque. C'est-à-dire que ce n'est pas les premiers scandales auxquels IKEA est confronté. Hein. Il y a eu du travail des enfants, il y a eu l'huile de palme, il y a eu plein de choses. Il y a eu le passé nazi d'Ingvar Kamprad, mais en fait, on a appelé ça l'effet Teflon, ça glisse et ça touche pas. C'est-à-dire que cette marque continue à être incroyablement populaire, quoi, et bon, bénéficie d'une image verte.
Dans les années 70, la Suède est devenue tendance. On parle alors du « modèle suédois », synonyme de société heureuse dans le monde du travail, l'égalité des sexes et les relations internationales. IKEA capitalise sur cette image.
De même, la Suède est devenue avec le temps très dépendante de l'image qu'IKEA donne de son pays au reste du monde. IKEA s'est très bien débrouillé pour faire ce que l'on appelle du nation branding, c'est-à-dire pour capitaliser sur l'image de marque de la Suède à l'international.
IKEA aide la Suède et la Suède le lui rend bien. L'ogre poursuit sa politique d'accaparement des terres. De l'autre côté de la mer Baltique, IKEA possède près de 140 000 hectares de forêt et se met à dos une partie de la population. En 2018, des citoyens lituaniens veulent limiter les achats de terres par les sociétés étrangères comme IKEA. Sous pression de la rue, le gouvernement projette d'écrire une loi en ce sens.
Et pourtant, le modèle suédois, ouais, partout dans le monde, on croit que c'est le meilleur. Bon, ben voilà. Ils s'attaquent maintenant à l'Amérique du Sud. Alors ça, c'est un autre problème, parce que l'Amazonie, c'est le poumon un peu de la planète.
Alors, nous, les informations qu'on a, c'est qu'a priori, ils ne vont pas taper dans l'Amazonie. C'est pour ça qu'ils vont plutôt favoriser les plantations dans l'état du Rio Grande do Sul ou dans d'autres états. Ils ne vont pas prendre le risque d'aller en Amazonie. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on a pu voir, c'est la pression du marché de l'ameublement. Parce que IKEA, ils arrivent sur le marché, ils ont signé un partenariat avec une entreprise chilienne qui s'appelle Falabella et ils ont besoin de beaucoup de bois. Donc là, leur bois, il provient du Brésil et du Pérou, a priori d'états qu'on a identifiés. Mais c'est sûr que ce qu'on a pu constater, nous, sur le terrain, c'est que ça pousse à plus de plantations, plus de monocultures. Et ce que nous ont dit les militants écologistes, et pas seulement, hein, des scientifiques aussi reconnus, il y a un biome là magnifique, la pampa, la prairie, quoi, qu'il faut préserver et il ne faut pas les convertir en monoculture. Et au moment où moi je quittais le Brésil, ils venaient d'obtenir l'autorisation de mettre encore plus de cultures de pin sur le biome qui est normalement le biome de la forêt atlantique qui est protégé. Donc c'est sûr que ça accentue la pression sans forcément aller taper dans l'Amazonie, parce que je pense que IKEA quand même risquerait gros là à aller taper dans l'Amazonie. Mais rien que ça, dans cette forêt protégée, dans ce biotope, biome protégé, les monocultures, ça met de la pression, il y a plus de demandes de bois et donc ça favorise les monocultures.
Il y a un autre mot fort dans le reportage aussi, c'est celui de colonisation des terres autochtones et indigènes. On le voit avec les Samis en Suède, en Nouvelle-Zélande aussi.
Les Maoris.
Ouais. Ouais, avec les Maoris aussi. Et du coup, est-ce qu'on peut en parler un petit peu?
Oui, bah ça c'est vrai que ça peut que sauter aux yeux, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même une population autochtone qui se mobilise, hein, que ce soit en Suède ou en Nouvelle-Zélande, et on les écoute pas, quoi. C'est-à-dire que là, les Samis, ils n'ont plus de lichen, parce qu'en fait, pour nourrir leur renne, ils ont besoin du lichen qui poussait sur les arbres des forêts anciennes. Mais comme tout est rasé et qu'on continue à conquérir leur territoire, ils n'ont plus assez à manger pour leur renne. Donc ça met en péril leur mode de vie, leur culture, etc. Et c'est pareil pour les Maoris. Ils sont allés jusqu'à l'ONU, jusqu'à New York, ouais, pour défendre leurs droits. Et puis, visiblement, alors, ce qu'IKEA nous a répondu, c'est de dire, nous discutons avec les communautés autochtones, nous tentons de trouver des accords avec eux, etc. Ils vont toujours nous dire ça, mais nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'ils sont pas contents de ce qui se passe, quoi.
Alors moi j'ai encore deux petites questions. J'ai eu, alors je sais plus qui est la personne qui a pris la parole, mais elle disait que la politique commune européenne, il n'y a rien en ce qui concerne, il n'y a pas de réglementation en ce qui concerne les forêts.
Oui, alors ça, c'est vrai que la forêt reste une compétence nationale. On a tenté de remettre ça en question, mais effectivement, il y a des pays qui dépendent beaucoup du bois, notamment les pays nordiques, qui veulent que ça reste une compétence nationale, la Pologne aussi, la Roumanie aussi. Par contre, c'est vrai qu'il y a des réglementations transversales qui quand même permettent de protéger la forêt, comme les zones Natura 2000, la directive sur la protection des habitats, la directive sur les oiseaux. Donc via ces directives-là, on va pouvoir protéger la forêt quand même. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a pas de politique européenne des forêts.
Et puis, consommation de masse, hein, pour ce qui concerne les consommateurs. Alors, évidemment, on le voit bien dans le film, hein, on achète quelque chose, mais en fait, on repart avec plein de choses qui ne servent pas forcément à grand-chose. Comment on fait pour sensibiliser les consommateurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens qui voient ce documentaire, en disant oh, « mais je ne m'attendais pas à ça du tout ».
Alors, il y a ceux qui nous disent qu'effectivement, ils privilégient depuis longtemps leur réemploi, qu'ils gardent les meubles des grands-mères, des grands-pères. Et puis, il y a d'autres qui vont nous dire « effectivement, c'est le porte-monnaie. Moi, je dois loger mon fils qui est étudiant, il veut du neuf. » Et donc, c'est simple d'aller chez IKEA. Ils sont très forts en communication quand vous regardez leurs pubs. Par exemple, pendant le Covid, les chiffres d'IKEA ont explosé. Les gens étaient enfermés chez eux, ils en avaient marre de voir le même canapé, donc ils changeaient de canapé. Ils restent quand même pas chers. Leurs meubles sont quand même... Le design est très sympa. C'est vrai que historiquement, ils ont quand même démocratisé le design, fait qu'on pouvait avoir des meubles un peu branchés chez soi et qui étaient accessibles à plus de monde. Donc c'est compliqué de... Mais bon, on a le sentiment quand même que le réemploi, ça fait son chemin. J'en parlais, il y a l'upcycling maintenant. Il y a aussi des ateliers où les gens peuvent amener un vieux meuble et puis même un peu le customiser pour le rendre un peu plus design ou un peu plus moderne. Donc on a le sentiment qu'il y a des solutions qui se développent. Et puis maintenant, même IKEA, justement, ils jouent là-dessus en disant « Ramenez-nous vos meubles, on va leur donner une seconde vie. » Mais bon, on se méfie toujours de ces arguments. Il faudrait suivre les meubles pour voir ce qu'ils deviennent réellement.
Question bonus, vous allez travailler sur un autre sujet, toujours en environnement. Pouvez-vous nous en parler juste deux mots pour voir un petit peu ce que ça va être?
Ouais, là, je travaille beaucoup sur les déchets, sur le trafic de déchets, les flux de déchets, en fait, parce qu'on produit beaucoup trop de déchets. On n'a pas les capacités de les traiter en France, même si on rabâche avec le recyclage, on n'a pas les capacités de traiter tous les déchets qu'on produit. Donc là, j'aimerais travailler là-dessus parce que nos exportations de déchets ont explosé. C'est plus, je crois, 80% en 10 ans, c'est énorme. Donc ce serait un peu de suivre le chemin de nos déchets. Et on va voir que depuis que la Chine a fermé la porte aux déchets plastiques, il y a beaucoup de nos déchets qui finissent en Turquie.
Les acteurs majeurs comme IKEA doivent prendre leurs responsabilités. Nous vivons comme si nous avions quatre terres. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, à moins que l'on trouve un moyen de créer trois autres planètes. Si personne ne réussit à créer par magie d'autres planètes habitables, nous devons prendre soin de celles que nous avons. Tout le monde est concerné. Surtout ceux qui ont du pouvoir. Plus vous êtes puissant, plus votre responsabilité est grande.
C'était un entretien avec Marianne Kerfrieden, co-réalisatrice du documentaire IKEA, le seigneur des forêts, en sélection officielle des films de plus de 40 minutes dans le cadre du FIGRA, Festival international du grand reportage et du documentaire de société, qui a lieu du 28 mai au 2 juin à Douai.
Thank you.